Les tribulations d'un maire de France, c'est le livre événement qui vient d'être publié par Yves Météraud, ancien maire de la Baule, ancien président de Cap Atlantique, de la Baule au monde. Bonjour Yves Météraud.
Bonjour.
On a évoqué dans une précédente émission la vie politique, la Baule, le début finalement de votre construction idéologique et comment cela s'est concrétisé au fur et à mesure de votre carrière. Il y a aussi un autre point important qui revient dans votre livre, puisqu'il y a deux personnes que vous citez à qui vous avez souhaité réellement rendre hommage. C'est Olivier Guichard pour la politique et puis Paul Le Gueux pour la vie professionnelle. Ben là, on va parler de la vie professionnelle et oui, de vos déplacements et de tout ce que vous... tout ce que vous avez vécu. Alors ça, c'est formidable.
Oui.
C'est vrai, c'est une belle vie. Alors ça, c'est vraiment formidable, c'est plus surprenant.
Bah, c'est une chance. Hein. En réalité, j'avais commencé ma vie professionnelle dans une petite entreprise de Saint-Nazaire avec un ami qui s'appelait Maurice Léac à la SOFOP. Et puis, au bout de 7-8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne qui, par relation, mais c'était une époque où on... Même quand on n'avait pas, on cherchait un travail sans trop le chercher, on vous le proposait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que c'est très différent encore d'aujourd'hui. Encore que il y a des tas de gens qui cherchent aujourd'hui et qui ne trouvent pas les employés, les collaborateurs dont ils ont besoin. Mais j'ai rencontré Paul Le Gueux et son épouse Ghislaine, parce que c'était un tandem, elle s'occupait des finances et lui de son atelier, de la fabrication de ses véhicules tout-terrain. Je l'avais rencontré à la chambre de commerce de Saint-Nazaire où il avait fait une conférence auprès de chefs d'entreprise et j'avais été épaté par sa connaissance à la fois de son matériel, des véhicules qu'il produisait, mais aussi sa connaissance de l'étranger, puisque tout ce qu'il a fait au départ, c'était de l'exportation. Et uniquement de l'exportation. Alors, il a eu la chance que le général de Gaulle ait donné l'indépendance à la plupart des pays d'Afrique et créé un ministère de la coopération. Ce ministère de la coopération, c'était pour fournir aux pays nouvellement indépendants d'Afrique du matériel, des coopérants, du matériel roulant pour les armées, tout ça. Parce qu'autrement, l'Afrique était une création de la France. L'Afrique francophone était une création de la France, comme l'Afrique anglophone est une création de l'Angleterre. Mais les pays anciens colonisateurs ont voulu pérenniser ces créations. S'ils ne l'avaient pas fait, le nombre d'ethnies africaines qui n'a rien à voir avec les frontières qu'avaient réalisées les Français à ce moment-là aurait sans doute créé des perturbations, aurait sans doute complètement désintégré le système que nous avions mis en place en Afrique, nous et les Anglais de l'autre côté.
Pour créer une identité nationale à ces pays qui n'en avaient pas finalement.
Pour essayer
entre
de créer,
les tribus.
Absolument. Parce que rien qu'au Togo, il y a environ 120 ethnies différentes et chaque ethnie est avide d'avoir le pouvoir. Donc c'est extrêmement compliqué. Il faut bien connaître l'Afrique et c'est Focard, bien sûr, qui, avec l'appui et sous l'égide du général de Gaulle, a créé ce qu'on appelle la France-Afrique aujourd'hui, qui est très décriée, mais qui finalement a permis quand même à tous ces pays de réussir leur stabilité et en attendant leur progression économique.
Quand on voit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire,
absolument,
ce sont des beaux exemples. Alors, on avait dit à la Baule à un certain moment, Yves Météraud, ceux qui ne vous connaissaient pas disent « Que fait le maire de la Baule ? Il est marchand d'armes. » Moi, j'ai souvent
oui,
entendu ça.
Hein, oui,
Donc, vous n'étiez pas quelqu'un avec une mallette qui vous baladiez dans l'ombre pour vendre des Kalachnikov à des terroristes. C'est pas ça. Hein.
Non, non.
Qu'est-ce que l'ACMAT ?
L'ACMAT est une entreprise moyenne qui avait entre 120 et 150 employés. Et qui produisait des camions tout-terrain. Camions tout-terrain qui pouvaient être utilisés en véhicules militaires, mais qui ont pu être utilisés, moi je l'ai fait, j'en ai vendu beaucoup, en véhicules incendie tout-terrain, en véhicules ambulance, en véhicules citerne ou en véhicules sur lesquels, bien sûr, on pouvait mettre des systèmes d'armes. Et la la grande majorité quand même des camions étaient vendus au pays par le ministère de la Coopération ou par des agences d'État, genre SOFMA, OFEMA, l'Office Général de l'Air, etc., qui, eux, de leur côté, fournissaient éventuellement en armement pour être montés dans le pays les systèmes d'armes qui allaient sur les camions.
Alors, comme toute entreprise, il faut se faire connaître. Donc, le sponsoring et les influenceurs, ça n'existait pas à l'époque. On fournit des camions et le véhicule ACMAD gagne le Paris-Dakar. Hein, ça fait aussi connaître.
Oui, c'est le grand moment. On avait vu arriver Thierry Sabine un jour, qui était un type séduisant. Il avait séduit mon patron.
C'est votre patron.
Et
il y a un danger. Non, mais pas emmené voir un film chinois de Jean-Luc Godard. Au moins.
Non. Et Thierry Sabine voulait, c'était son deuxième ou troisième Paris-Dakar, mais les premiers, il voulait faire le Paris-Dakar en camion, et il voulait avoir un camion de maintenance capable de traverser le circuit, le Sahara, et à cette époque-là, c'était pas dangereux, enfin, ou tout au moins beaucoup moins dangereux qu'aujourd'hui, et il lui propose de mettre deux véhicules à disposition pour le Paris-Dakar, et en même temps, il ouvrait une catégorie camion pour ce Paris-Dakar. Et nous l'avons gagné 2 années de suite, mais la première année, c'était extraordinaire. C'était en 1981, date dont nous nous rappelons pour d'autres raisons éventuellement. Et nous sommes allés à Dakar fêter l'arrivée du camion qui était arrivé premier. L'arrivée, ça avait lieu sur le lac Rose, près de Dakar. Et Thierry Sabine et puis c'est Auriol aussi.
Hubert
Auriol avait gagné dans la catégorie moto à l'époque, je me souviens. Et ça a été un succès. Et ça a confirmé l'aptitude de ce véhicule qui était très spécial puisqu'il gravissait des pentes à 60%, il avait une autonomie de 1600 km, il avait un réservoir d'eau qui était très important dans les pays où il fait très chaud, de 200 litres pour les hommes qu'il transportait, et on pouvait lui mettre toute une série d'équipements. En plus de ça, il était d'une simplicité extraordinaire à réparer, à entretenir. Et on a retrouvé, et il avait fait ses premières armes également au Zaïre lors de Colvézi, où la Légion étrangère et les Marocains qui étaient venus pour sauver les gens qui étaient à Colvézi avaient parachuté des camions. Ce camion était aérotransportable et parachutable. Et les Angolais qui avaient attaqué Colvézi ont été surpris de voir arriver dans le ciel des camions utilisé par la Légion étrangère pour libérer les otages de Colvézi. Malheureusement, il y a quand même eu une centaine de morts.
Pourquoi vous les vendez bien, hein, ces camions ?
Oui, alors, le ministère de la Coopération a été créé par le général de Gaulle, a été le démarrage. Les premiers camions ont été vendus en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et ils étaient achetés à l'ACMAD par le ministère de la Coopération.
Donc tout était... Vous étiez sûr d'être payé.
On était sûr
et ensuite
d'être payé.
C'était donné aux pays.
Et les pays, pour les entretenir, achetaient des pièces détachées et achetaient des véhicules en complément. Et puis il y a eu la guerre du Tchad. Et là, le Tchad, nous avons vendu beaucoup de véhicules au Tchad, environ 200-250, au moment où Kadhafi s'était lancé dans une opération scabreuse qui était de reprendre la bande d'Aouzou, ce que les Tchadiens n'avaient pas toléré. Seulement, il avait oublié que la France, et là, c'était Charles Hernu qui était ministre de la Défense à ce moment-là, n'avaient pas du tout envie de céder à Kadhafi. Et ils ont armé les Tchadiens, qui sont des redoutables combattants en Afrique. C'est peut-être sans doute la meilleure armée d'Afrique. Les Toubous sont des combattants extrêmement redoutables, dont les Libyens avaient peur. Et quand ils arrivaient à attraper un char, ils ont repoussé. C'était la peur des Libyens. C'était tomber entre les mains des Tchadiens. Et finalement, ils ont repoussé les Libyens sur leurs frontières, repris la bande d'Aouzou avec l'aide des Français. Et ça a été un moment où on a vendu un grand nombre de véhicules. Et après, avec ces exploits, tous les pays africains connaissaient le VLRA, le véhicule léger de reconnaissance et d'appui. Et tout le monde en voulait, parce que c'était le seul véhicule qui, à cette époque-là, pouvait faire des kilomètres en Afrique, était facile à entretenir, facile à réparer, où on pouvait mettre de l'armement dessus, et on pouvait gagner des batailles ou des guerres de guérilla qui, les trois quarts du temps, ont lieu en Afrique.
Alors, l'Afrique occupe une place importante dans ce livre, évidemment, comme dans votre vie, avec des rencontres, des anecdotes aussi, comme avec Omar Bongo. Alors, faut parler d'Omar Bongo, c'est quand même un gars, actuellement c'est son fils qui dirige. Comme vous dites, il était tout, quoi. Il était musulman, catholique et franc-maçon.
Absolument, voilà. Oui.
Et on disait El Hadj Omar Bongo, c'est incroyable. Ce sont des chefs d'État comme on n'en fait plus.
Oui, mais c'était... Omar Bongo avait sa garde présidentielle était composée d'anciens parachutistes français d'Indochine aussi et commandée par un général qui s'appelait Loulou Martin qui était un des généraux les plus décorés de France. Et puis la gendarmerie de son côté avait été équipée et il y avait des coopérants gendarmes français en Afrique. Et moi j'ai vendu à l'époque, j'avais été là-bas, on avait vendu 200 véhicules à la gendarmerie gabonaise. Et c'est à cette occasion que j'ai été là-bas et que j'avais rencontré Michel Cotta, qui venait d'être envoyé pour interviewer Omar Bongo, mais qui faisait le pied de grue à la porte du palais présidentiel et n'était pas très contente de ne pas être dans les personnalités reçues immédiatement.
Et puis vous avez suivi de près toutes ces histoires de France-Afrique, d'Elf, etc. Cette fois-ci plus en tant que témoin, puisque vous étiez...
Je suis allé en Angola.
Un businessman finalement.
Mais j'ai un souvenir quand je suis allé en Somalie, où tout le monde n'allait pas en Somalie à l'époque, parce que c'était un petit peu... c'était un pays extrêmement dangereux. J'ai eu la chance d'être reçu par le président Siad Barré. Et il m'a acheté 200 camions 6-6 qui ont été payés rubis sur l'ongle par les Somaliens. Alors que...
ils n'avaient pas le choix parce que la politique de M. Le Gueux, vous le dites aussi, vous mettez haut dans le livre, c'est que c'était 200 véhicules minimum. On ne pouvait pas vous acheter 100.
On pouvait.
Parce que
en
dans
acheter...
le livre, vous dites qu'il y avait des conditions. Pour ça,
oui, non, il y avait des conditions quand le pays voulait fabriquer lui-même, comme en Angola par exemple. En Angola, quand je suis allé en Angola, il y avait une condition, c'était on va mettre à votre disposition une usine et puis vous allez nous donner votre savoir-faire, etc. Et on va fabriquer sur place. Et là, effectivement, comme en Iran, quand je suis allé en Iran, c'était la même chose. Avec Gilles Ménage, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand. Beaucoup de pays, à un moment donné, ont voulu acquérir du savoir-faire français. Et ça posait un problème parce que beaucoup d'industriels français ont accepté de donner leur savoir-faire à des pays. Et finalement, ça dépendait des pays, mais tous les pays n'étaient pas capables de construire eux-mêmes une ligne de montage de véhicules ou une ligne de montage de camions. Et nos conditions étaient les suivantes. Effectivement, il fallait commander au moins 200 véhicules et puis acheter les brevets, les modèles et les marques que mon ami Claude Rodin, qui avait un cabinet d'avocats à Paris, protégeait avec beaucoup de compétences.
Oui, mais en droit international, c'est toujours très compliqué. Vous ne pouvez pas empêcher un pays de vous copier et de faire une usine. Vous pouvez lui envoyer toutes les lettres recommandées
tout
que vous voulez.
Surtout les Chinois.
Ouais, si vous envoyez des lettres recommandées en Chine, à mon avis, ça va direct au sac poubelle. Alors, il y a eu des moments importants sur lesquels vous revenez, qui ont fait aussi le business de l'ACMAT. Ça nous amène à un voyage en géopolitique internationale avec le Maroc, la Marche Verte.
Oui.
la marche verte, on va rappeler, c'était en 1976, je crois, 1975, voilà, vous le dites, voilà, 1975.
Oui.
Le Maroc est attaqué, et le Sahara dit espagnol est revendiqué par l'Algérie, qui ne l'occupe pas directement, mais qui met en place une sorte de fausse organisation de faux pays qui s'appelle le Polisario et de faux peuples, voilà, c'est à peu près ça. Il y a un risque de guerre et Hassan II a une idée incroyable, c'est de dire tous les peuples, du plus riche au plus pauvre, vous allez descendre à pied avec le drapeau et conquérir les terres, ils n'oseront pas tirer. C'est en résumé ça, la marche verte.
Oui, Hassan II était un entraîneur d'hommes. Et effectivement, il a entraîné son peuple, une partie, hein, bon, parce que tout le Maroc ne s'est pas déplacé, mais à pied vers le sud, pour montrer que le sud marocain était marocain. Et en même temps, parallèlement, il a demandé l'aide de la France pour ses armées, parce que ça, c'était le côté façade et puis médiatique. Mais parallèlement à ça, il a renforcé son armée et nous avons vendu, je crois, à l'époque, 400 ou 500 camions militaires tout-terrain au Maroc. Puis ensuite à la gendarmerie marocaine, moi à la fin de ma vie professionnelle, j'en avais vendu beaucoup à la gendarmerie marocaine et le Maroc était probablement notre plus gros client pour ces véhicules pendant longtemps et le plus fidèle.
Puis les contrats ratés aussi, parfois on ne gagne pas à tous les coups. Il y a l'Irak, une rencontre qui devait se faire avec Saddam Hussein au moment de la guerre Iran-Irak. Vous racontez votre arrivée incroyable à Bagdad, on arrive à l'aéroport tard dans la nuit. L'aéroport est très contrôlé pour éviter les raids de l'aviation iranienne, puisque l'Irak était en guerre contre l'Iran. Comment ça s'est... Quel souvenir vous en avez gardé
c'est incroyable. C'est tout à fait simple.
C'est folklorique, voilà.
Oui, c'est folklorique, un peu comme avec Gilles Ménage. Là, nous avions rencontré un autre personnage connu qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Charles de Chambrun.
Oui, qui était ministre général de Gaulle.
Il a été secrétaire d'État, je crois, aux affaires étrangères du général
de Gaulle. Et qui a fini au Front National.
Et qui était marié avec la fille de Pierre Laval.
Oui. Donc il est fini au Front National.
Oui.
Je ne savais pas. Oui.
La propriétaire de l'eau de Châteldon, hein, oui. pour la petite histoire. Mais donc, qui était mariée avec et qui nous dit ben, j'ai des bonnes relations avec Saddam Hussein. Bon. Je vous ferai rencontrer, non pas Saddam Hussein, mais je vous ferai rencontrer un général chargé des achats de matériel. Je prends rendez-vous pour vous. On vous attendra à l'aéroport de Bagdad. Et puis, vous inquiétez pas, vous allez être emmené pour rencontrer toutes les personnalités. Et puis, vous allez voir, c'est formidable, etc., etc. Nous sommes arrivés à Bagdad en pleine nuit, tout était occulté évidemment puisque c'était la guerre et l'Iran, l'Irak était vraiment à cette époque-là une guerre difficile hein, avec l'occupation du sud par les Iraniens et les Irakiens et nous n'étions finalement pas attendus. On a atterri dans un hôtel un peu moche. Et puis le lendemain, j'ai fait de mon mieux pour essayer d'avoir un rendez-vous. On a eu un rendez-vous finalement avec un colonel qui était plutôt un colonel des renseignements généraux ou de la sécurité militaire.
Donc qui n'avait aucun pouvoir.
Qui n'avait aucun pouvoir, mais qui voulait savoir si on ne venait pas faire de l'espionnage à Bagdad à ce moment-là, parce que c'était quand même un pays sous surveillance. Mais bon, il s'est rendu compte qu'on était...
Ah, ça l'a toujours été. Hein.
Et il s'est rendu compte que nous étions de bonne foi. On lui a montré nos catalogues. Ce qu'on avait préparé en fait pour un rendez-vous à un haut niveau et puis finalement voyant que rien ne se passait nous sommes repartis et nous n'avons jamais vendu de camions en Irak. Par contre on en a vendu en Arabie Saoudite au moment du conflit, au moment où Saddam Hussein a attaqué le Koweït et où il envoyait des scuds qui tombaient dans l'eau parce qu'il ne savait pas les guider contre l'Arabie Saoudite.
Voilà. Et Bagdad, voilà, en général, c'est toujours des gros échecs, on vous fait attendre, etc. Puis vous finissez dans des pizzerias en centre-ville avec un verre de vin rouge à attendre pendant toute la nuit.
Oui, ou un verre d'eau.
Non, non, il y a du vin rouge. Non, non, j'ai pris des pizzas avec des pichets de vin rouge dans les pizzerias à Bagdad.
Ah bon?
Voilà, c'était... Non, non, il y avait une totale liberté là-dessus. Finalement, dans cette vie, finalement, vous avez connu les beaux hôtels, les réceptions officielles avec les chefs d'État, le luxe, et puis les gros échecs aussi à attendre dans des hôtels pouilleux à Bagdad. Voilà,
oui.
Il y a ce contraste hein, entre tout ça, mais ça vous a amené une vision géopolitique incroyable.
Mais
moi, et de tolérance aussi.
Oui, et puis moi j'étais devenu un peu un spécialiste de l'Afrique anglophone. J'ai vendu pas mal de camions au Ghana, j'en ai vendu au Zimbabwe, où j'ai fait un très beau contrat. Zimbabwe, c'est l'ancienne Rhodésie du Sud, qui avait été indépendante et qui était un pays remarquable. Extrêmement bien équipé. Malheureusement, il était dirigé par un fou qui s'appelle Mugabe et qui a ruiné son pays. Et puis, j'ai été aussi en Libye.
Il y avait une obsession anti-blanche. Hein,
oui. J'ai été aussi, évidemment, en Libye, un petit peu en Amérique latine, mais pas beaucoup. Et au Venezuela, notamment, où j'avais essayé de vendre des véhicules, mais ça a été un échec parce que ce pays est extrêmement corrompu. Et finalement, c'est au Moyen-Orient et en Afrique que nous avons le plus réalisé d'affaires et de contrats, et où j'ai passé mes meilleurs moments. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'Afrique. Mais je crois que ça a beaucoup changé aujourd'hui, et puis les Français ne sont plus aussi les bienvenus que nous étions à l'époque. Et malheureusement, je pense que la situation n'a pas évolué dans le bon sens. Mais ce qui était formidable, c'était qu'on parlait français, notamment avec le Cameroun, où j'ai de très bons souvenirs, à la fois africain, mais à la fois baulois, et en même temps, avec la plupart de ces pays qui nous réservaient, par le biais aussi de l'armée française et des militaires qui étaient basés dans ces pays-là, un accueil souvent extrêmement chaleureux.
Est-ce que tout ça vous amène, quand les événements géopolitiques en Afrique, Moyen-Orient ou partout, n'importe où dans le monde, à regarder les choses différemment, à essayer de comprendre, à peut-être essayer de comprendre les origines de ce conflit, à vous mettre dans la peau de chacun des protagonistes, voilà, et pas avoir des regards noirs sur blanc, des regards manichéens finalement.
Oui, moi
cette
je ne suis pas du tout manichéen, je ne pense pas qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, je pense qu'il faut acquérir de l'expérience, acquérir... et être en même temps assez indulgent. Parce que ça ne doit pas être toujours très facile de diriger un pays, ça ne doit pas être très facile de, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, d'avoir des responsabilités. Et je pense que quand on a beaucoup voyagé, fréquenté beaucoup de chefs d'État, d'hommes puissant à travers le monde, eh bien, on acquiert une certaine philosophie et surtout beaucoup de tolérance à leur égard.
Ça vous a amené à adopter finalement une pratique en tant que maire ou président de Cap Atlantique de tolérance, aussi à écouter les gens, à essayer de comprendre.
Oui, mais alors, moi, il y a deux choses. Hein. Je pense que ça donne une tournure d'esprit. Ça donne une expérience et ça donne une forme de tolérance, effectivement. Mais c'est quand même très différent. Moi, j'aime la France. Hein. Je suis français. J'aime la Baule parce que j'y ai vécu 75 ans. J'aime cette France qui, finalement, a un peu le sentiment, parfois, d'être abandonnée. Et j'ai eu la chance, surtout, d'être maire dans une région extraordinaire. Les écrivains que je connais, ceux qui sont optimistes, c'est des gens comme d'Ormesson qui disent « j'ai eu la chance de bien vivre, j'ai eu la chance d'être heureux ». Eh bien moi je dirais un peu la même chose, j'ai eu la chance d'être maire de la Baule à une période. Alors, tribulation, ça veut dire aussi un peu mésaventure, hein. J'ai pas eu que des moments faciles à la mairie de la Baule. Mais finalement, tout confondu. Ce sont des moments extrêmement heureux que j'ai passés ici. Et peut-être est-ce dans mon caractère également, parce que j'aime mes concitoyens, enfin j'aime une partie de mes concitoyens. Et puis je pense avoir un contact humain relativement facile.
Ça c'est vrai, mais puis en plus quand on parle de tribulation, vous dites que ça n'a pas été toujours facile à la mairie de La Baule. Il faut quand même reconnaître que c'est quand même une ville un peu facile, c'est un peu Disneyland. Hein. Vous auriez été maire des Minguettes.
Ah oui,
ça aurait
oui,
été
non,
beaucoup
mais
plus
je...
difficile. Hein.
Oui,
voilà,
oui,
quand
oui,
vous
oui.
dites.
C'est... Non, non, mais c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la
c'est
chance.
C'est ce qui vous a permis de concilier ça avec votre vie professionnelle.
Sans doute. Sans doute. Mais aussi de m'organiser en conséquence, hein, avec une vie de famille, avec la chance d'avoir une épouse et puis des enfants qui ont accepté que je ne sois pas là très souvent, ouais. Que j'arrive à remplir mes différents mandats. Quand j'étais président de Cap Atlantique, j'étais en même temps président de l'association des maires de Loire-Atlantique. Il fallait que j'aille à Nantes très souvent pour rencontrer le préfet, surtout au moment de l'affaire de Notre-Dame-des-Landes qui nous a beaucoup déçus. Au moment du naufrage de l'Erika en 2000, il y a eu quand même des dispositions à prendre qui étaient lourdes. Et puis, il y a eu l'attentat à la mairie de La Baule. L'animation de La Baule aussi avec la World International Conference, qui était une manifestation de renom international extraordinaire, où la plupart des grands chefs d'entreprise se donnaient rendez-vous à La Baule. Il y avait l'appui de la DATAR, mais il y avait aussi l'appui du MEDEF et des trois ou quatre régions réunies. Et puis quand il y a deux régions qui ont décroché, notamment celle de Ségolène Royal, qui n'a plus voulu financer, la région Bretagne a décroché et la World International Conference, qui était un petit peu le Davos de l'Ouest, n'a pas pu se tenir. Mais
elle n'a pas fait preuve de bravitude.
Elle n'a pas fait preuve de beaucoup de tolérance, Ségolène Royal. Et moi, elle m'a pourri mon dernier mandat avec l'histoire du décret plage. Et je dois
dire... Ah, c'était elle ?
Bah, c'était pas elle. Le décret plage avait été signé par Nicolas Sarkozy et par De Villepin et par... la ministre de l'Environnement de l'époque, Roselyne Bachelot. Mais finalement, il n'était pas appliqué à La Baule. Il y avait une forme de tolérance. Et ça a permis aux établissements de plage de se développer. Mais quand Ségolène Royal est arrivée ministre de l'écologie, avec son mari président de la République, elle a décidé de manière abrupte, parce qu'elle avait eu, par différentes associations environnementales, des échos comme quoi le décret plage n'était pas bien appliqué à La Baule, elle a demandé au préfet que dans les 3 mois qui viennent, l'ensemble des établissements de plage soit démonté. Et elle voulait une plage sans aucun établissement pour le mois de décembre-janvier de cette année-là. C'était une catastrophe, parce que entre lancer des consultations pour réaccorder des concessions aux différents établissements de plage, démonter, remonter et obtenir les permis de construire, parce qu'il fallait un permis de construire obligatoirement qui soit conforme, eh bien on perdait au moins 1 an et demi, voire 2 ans, c'est-à-dire au moins 2 saisons, ce que beaucoup d'établissements n'auraient pas pu réussir à tenir. Et j'ai demandé des délais à Ségolène Royal, à son cabinet. D'abord, elle ne m'a jamais reçu. Et puis deuxièmement, je n'ai jamais pu obtenir de délai. J'ai été sauvé par le gong des élections, où finalement Macron a été élu, et où Édouard Philippe, que je connaissais bien puisqu'il avait soutenu Juppé comme moi, m'a permis d'avoir une préfète ici, beaucoup plus à l'écoute et qui nous a donné des délais pour réussir ce changement des établissements de plage.
Merci Yves Météron, on a parlé de votre livre « Les tribulations d'un maire de France, de La Baule au monde » de Yves Météron, ancien maire de La Baule, ancien président de Cap Atlantique, et publié aux éditions L'Harmattan. On a fait la deuxième émission qu'on vient de faire, mais on a fait 2 très belles émissions. Merci encore Yves
Météron. Merci à vous.